Chapitre 14. Jour de paix. Permettez-moi tout d'abord de vous assurer que l'élément est parfaitement en sécurité. Je lui ai trouvé un bon foyer. Je protège sa sécurité comme je protège ma propre peau, pourrait-on dire. Le matin qui suivit sa décision au cœur de la tempête majeure, Kaladin s'assura de se lever avant les autres. Il rejeta sa couverture et traversa à grands pas la pièce remplie de masses recroquevillées. Il ne se sentait pas surexcité, mais bel et bien déterminé, résolu à se battre à nouveau. Il commença ce combat en ouvrant grand la porte à la lumière du soleil. Jurons et geignements retentirent derrière lui, tandis que les hommes de pont sonnés s'éveillaient. Kaladin se retourna vers eux, main sur les hanches. Le pont 4 comptait actuellement 34 membres. Ce nombre fluctuait, mais il en fallait au moins 25 pour porter le pont. Si l'on tombait en dessous, le pont ne pouvait que s'effondrer. Parfois, il le faisait même avec davantage de porteurs. « Debout et en place !» lança Kaladin de sa meilleure voix de chef d'escouade. Elle recelait une autorité qui le stupéfia lui-même. Les hommes clignèrent leurs yeux voilés. « Ce qui signifie, » hurla Kaladin, « sortez de la baraque et formez des rangs, et tout de suite, nom des foudres, ou je vous sors de là moi-même un par un !» Syl descendit en voltigeant et atterrit sur son épaule, regardant la scène d'un air curieux. Plusieurs des hommes de pont s'assirent et le regardèrent fixement, déroutés. D'autres se retournèrent sous leur couverture pour lui tourner le dos. Kaladin prit une profonde inspiration. « Comme vous voulez !» Il pénétra dans la pièce d'un pas vif et choisit un aléti mince nommé Moash. C'était un homme costaud. Kaladin avait besoin d'un exemple. Et l'un des hommes les plus maigres, comme Dany ou Narm, ne ferait pas l'affaire. Par ailleurs, Moash était l'un de ceux qui s'étaient retournés pour se rendormir. Kaladin le saisit par un bras et tira de toutes ses forces. Moash se leva en titubant. C'était un homme jeune, à peu près du même âge que Kaladin, et il possédait un visage aquilin. « Allez aux foudres !» lâcha Moash en retirant son bras. Kaladin lui asséna un coup de poing en plein ventre, là où il était certain de lui couper le souffle. Moash octa sous l'effet du choc, se plia en deux, et Kaladin s'avança pour le saisir par les jambes et le hisser sur son épaule. Kaladin faillit basculer sous son poids. Par chance, porter des ponts fournissait un entraînement rude mais efficace. Bien entendu, peu d'hommes de pont survivaient assez longtemps pour en profiter. Les pauses imprévisibles entre les courses n'aidaient pas. C'était en partie le problème. Les équipes de pont passaient le gros de leur temps à regarder fixement leurs pieds ou à effectuer des tâches abrutissantes. Puis, on leur demandait de courir des kilomètres en portant un pont. Il emporta un Moash stupéfait à l'extérieur et le reposa sur la pierre. Le reste du camp était réveillé. Les charpentiers arrivaient au dépôt de bois. Les soldats couraient vers leur petit déjeuner ou leur entraînement. Les autres équipes de pont, bien entendu, dormaient toujours. On les laissait souvent dormir tard, à moins qu'elle ne soit de corvée de pont, le matin. Kaladin abandonna Moash et rentra dans la baraque au plafond bas. « Je ferai la même chose pour chacun d'entre vous si c'est nécessaire !» Ça ne le fut pas. Les hommes de pont stupéfaits sortirent à la file à la lumière du jour, clignant des yeux. La plupart étaient torse nus au soleil, seulement vêtus d'un pantalon à longueur des genoux. Moash se releva et lança un regard noir à Kaladin tout en se frottant le ventre. « Les choses vont changer au pont 4 !» déclara Kaladin. « Pour commencer, il n'y aura plus de grasse matinée. »«
Et qu'est-ce qu'on va faire à la place ?»
demanda Sigzil. Il avait la peau brun sombre et les cheveux noirs, ce qui le désignait comme Makabaki, originaire du sud-ouest de Rochard. Il était le seul homme de pont dépourvu de barbe et... À en juger par son accent doux, il devait être aséen ou émulien. Les étrangers étaient chose courante au sein des équipes de pont. Ceux qui ne s'intégraient pas se retrouvaient généralement relégués au crémon de l'armée.
« Excellente question !» répondit Kaladin. « Nous allons nous entraîner. Chaque matin, avant nos tâches quotidiennes, nous allons nous exercer à porter le pont afin de renforcer notre endurance. »
Plus d'un s'assombrit à cette idée.
« Je sais ce que vous pensez, » poursuivit Kaladin. « Nos vies ne sont-elles pas déjà assez rudes? Ne devrions-nous pas pouvoir nous détendre lors des brefs moments où ça nous est possible?
Ouais,
répondit Leighton, un homme grand et solide aux cheveux bouclés. C'est vrai.
Non, lâcha Kaladin d'une voix cassante.
Les courses au pont nous épuisent parce que nous passons la majeure partie de nos journées à nous prélasser. Oh, je sais que nous avons des tâches à accomplir. Fouiller dans les gouffres, nettoyer les latrines, récurer les sols. Mais les soldats ne s'attendent pas à ce que nous travaillions dur. Ils veulent simplement nous tenir occupés. Le travail leur permet de nous ignorer. En tant que chef de pont, mon devoir premier consiste à vous garder en vie. Comme je ne peux pas faire grand-chose contre les flèches Parchendi, je dois agir sur vous. Je dois vous rendre plus fort, de sorte que vous puissiez courir vite lorsque vous chargez sur la dernière partie d'une course au pont, au milieu des flèches. » Il croisa le regard des hommes de la rangée, un par un. « Je compte m'assurer que le pont 4 ne perde plus jamais un seul homme. » Tous le regardèrent fixement, incrédule. Enfin, un homme costaud aux membres épais situé à l'arrière du groupe éclata d'un rire sonore. Il avait la peau brun clair, des cheveux d'un roux profond et mesurait plus de 2 mètres, avec de larges bras et un torse puissant. Les Unkalaki, que la plupart appelaient simplement Manche-Corne, étaient un peuple du centre de Rochard, près de Jacques Évède. Ils s'étaient présentés la veille au soir sous le nom de Rock.
Insensé, déclara le Manche-Corne. Il est fou, l'homme qui se croit maintenant notre chef.
Il éclata d'un rire sonore. Les autres l'imitèrent, accueillant le discours de Kaladin en secouant la tête. Plusieurs se prennent de rire, des esprits argentés, pareils à des vairons qui décrivaient dans les airs des motifs circulaires, se mirent à filer autour d'eux.
Hé, hey, Gaz, l'appela Moache. Main en coupe autour de la bouche.
Le petit sergent Borgne bavardait avec des soldats non loin de là.
Qu'est-ce qu'il y a? Hurla Gaz en réponse, l'air mauvais.
Celui-là veut qu'on s'entraîne à porter des ponts, lui répondit Moache. On est obligé de lui obéir?
Bah, dit Gaz en agitant la main. Les chefs de pont n'ont d'autorité que sur le terrain.
Moache reporta son regard vers Kaladin.
On dirait que vous pouvez aller aux foudres, sauf si vous comptez tous nous cogner pour nous soumettre.
Ils se séparèrent, et plusieurs des hommes regagnèrent la baraque tandis que d'autres se dirigeaient vers la cantine. Kaladin se retrouva seul, debout sur les pierres.
« Ça ne s'est pas très bien passé, »
commenta-t-il depuis son épaule. « Non, en effet. »«
Tu as l'air surpris ?»«
Non, simplement frustré. » Il lança un regard noir en direction de Gaz. Le sergent de pont se détournait de lui avec application. Dans l'armée d'Amaram, on me donnait des hommes sans expérience, mais jamais ceux qui étaient ouvertement insubordonnés.
« Quelle différence ?»
demanda-t-il. Quelle innocence dans sa question. La réponse aurait dû être évidente, mais elle penchait la tête d'un air confus. Les hommes de l'armée d'Amaram savaient qu'il existait des endroits bien pires où aller. On pouvait toujours les punir. Ces hommes de pont savent qu'ils ont touché le fond. Avec un soupir, il laissa une partie de sa tension le déserter. J'ai de la chance de les avoir fait sortir de la baraque.
Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?
Je n'en sais rien. Kaladin lança un coup d'œil sur le côté, où Gaz bavardait toujours avec les soldats.
En fait, si, je sais.
Gaz vit Kaladin approcher et afficha une expression horrifiée, yeux écarquillés. Il interrompit sa conversation et courut se réfugier derrière une baraque.
Syl, dit Kaladin, tu pourrais le suivre pour moi ?
Elle sourit puis se changea en une fine ligne blanche traversant l'air à toute allure et laissant une trace qui disparut lentement. Kaladin s'arrêta là où Gaz s'était tenu. Syl revint quelques instants plus tard et reprit sa forme de jeune fille.
« Il se cache entre ces 2 baraques. »
Elle les montra du doigt.
« Il est accroupi là-bas et il attend de voir si vous le suivez. »
Avec un sourire, Kaladin contourna les baraquements en prenant le chemin le plus long. Dans la ruelle, il trouva une silhouette accroupie parmi les ombres qui surveillait l'autre direction. Kaladin s'approcha furtivement, puis saisit l'épaule de Gaz, lequel poussa un cri aigu et se retourna, poing brandi.
Kaladin retint son poing sans aucun mal. Gaz leva vers lui un regard horrifié.
« Je n'allais pas leur mentir, nom des foudres. Vous n'avez aucune autorité ici, hors du terrain. Si vous me frappez encore, je vais vous faire... »«
Calmez-vous, Gaz, » dit Kaladin en le relâchant. « Je ne vais pas vous faire de mal. Pas pour l'instant, en tout cas. » Le petit homme recula, frottant son épaule et lançant un regard noir à Kaladin. « Aujourd'hui, » dit Kaladin, « c'est le jour de paix. »«
Vous aurez la vôtre dans une heure, comme tout le monde. » »«
Non, vous l'avez déjà. » Je vous ai vu parler au courrier là-bas. » Il tendit la main. Gaz grommela, mais sortit une bourse et compta ses sphères. De minuscules lueurs blanches hésitantes brillaient en leur cœur. Des marques de diamants, valant chacune 5 brisures de diamants. Une seule brisure suffisait à acheter une miche de pain. Gaz compta 4 marques, bien qu'il y ait 5 jours dans une semaine. Il les tendit à Kaladin, mais ce dernier garda la main ouverte, paume en avant.
« Le dernier, Gaz. »«
Vous avez dit
tout de suite. »
Gaz sursauta, puis sortit une sphère.
« Vous avez une étrange façon de tenir parole, petit lord. Vous m'avez promis. »
Il laissa sa phrase en suspens tandis que Kaladin reprenait la sphère qu'on venait de lui donner pour la lui rendre. Gaz fronça les sourcils.
« N'oubliez pas d'où ça vient, Gaz. Je vais tenir parole, mais vous ne gardez pas une partie de ma paix. « Je vous la donne. Compris ?»
Gaz sembla perplexe, mais il s'empara de la sphère dans la paume de Kaladin.
« L'argent cessera de tomber s'il m'arrive quelque chose, » dit Kaladin en fourrant les 4 autres sphères dans sa poche. Puis il s'avança. C'était un homme de haute taille, et il dépassait nettement Gaz, beaucoup plus petit.
« Rappelez-vous notre marché. Tenez-vous à l'écart de mon chemin. » Gaz refusa de se laisser intimider. Il cracha sur le côté et la salive noire s'accrocha à la paroi rocheuse où elle s'écoula lentement.
Je refuse de mentir pour vous. Si vous croyez qu'une crémille de marques par semaine va...
Je n'attends de vous que ce que je vous ai dit. Quelles sont les tâches du pont 4 au camp aujourd'hui?
Le repas du soir, nettoyé et récuré.
Et la corvée de pont?
Dans l'après-midi.
Ce qui signifiait que la matinée était libre. L'équipe apprécierait. Elle pourrait passer son jour de paix à perdre ses sphères au jeu ou auprès des prostituées et oublier peut-être un bref instant sa vie misérable. Elle devrait toutefois être de retour pour la corvée de l'après-midi et attendre dans le dépôt de bois au cas où il y aurait une course au pont. Après le repas du soir, il s'en irait récurer des marmites.
Encore un jour de perdu. Kaladin se détourna pour regagner le dépôt de bois.
« Vous ne pourrez rien changer !» lui lança Gaz. « Il y a une raison si ces gars-là sont devenus hommes de pont !»
Kaladin continua à marcher, et Syl descendit du toit en voltigeant pour atterrir sur son épaule.
« Vous n'avez pas d'autorité !» lança Gaz. « Vous n'êtes pas un chef d'escouade sur le terrain. Vous n'êtes qu'un homme de pont, nom des foudres. Vous m'entendez ? Vous ne pouvez pas avoir d'autorité sans avoir de rang !»
Kaladin quitta la ruelle.
Il se trompe.
Syl le contourna en marchant pour aller se placer devant son visage et resta suspendu là tandis qu'il se déplaçait. Elle le regarda en penchant la tête.
L'autorité ne découle pas d'un rang, dit Kaladin tout en tâtant les sphères dans sa poche.
Alors d'où vient-elle?
Des hommes qui vous la donnent. C'est le seul moyen de l'obtenir.
Il regarda derrière lui, dans la direction d'où il venait. Gaz n'avait pas encore quitté la ruelle.
« Syl, tu ne dors pas, n'est-ce pas ?»«
Dormir ? Une sprène ?»
L'idée sembla l'amuser. « Tu veux bien me surveiller la nuit ? » demanda-t-il. « T'assurer que Gaz ne s'approche pas furtivement pour tenter quelque chose pendant mon sommeil. Il se pourrait qu'il essaie de me faire tuer. »«
Tu crois qu'il le ferait vraiment ?»
Kaladin y réfléchit un moment. « Non. Non, sans doute pas. » J'ai connu une douzaine d'hommes comme lui, de petites brutes qui avaient tout juste assez de pouvoir pour être agaçantes. Gaz est une brute, mais je ne crois pas qu'il soit un meurtrier. Et puis, de son point de vue, il n'est pas nécessaire de me tuer. Il lui suffit d'attendre que je me fasse abattre lors d'une course au pont. Cela dit, mieux vaut être prudent. Surveille-moi si tu le veux bien. Réveille-moi s'il tente quoi que ce soit.
D'accord. Mais s'ils s'adressent simplement à des hommes plus importants, s'ils leur demandent de t'exécuter...
Kaladin fit la grimace. Alors je ne pourrai rien y faire, mais je ne crois pas qu'il le fera. Ça lui donnerait l'air faible devant ses supérieurs. Par ailleurs, la décapitation était réservée aux hommes de pont qui refusaient de courir vers les Parchendi. Tant qu'ils couraient, ils ne seraient pas exécutés. En réalité, les dirigeants de l'armée semblaient hésiter ne serait-ce qu'à punir les hommes de pont. Un homme avait commis un meurtre alors que Kaladin était homme de pont, et on avait suspendu cet idiot en pleine tempête majeure. Mais ce cas mis à part, tout ce qu'avait vu Kaladin, c'était quelques hommes se faire priver de salaire après une bagarre, et quelques-uns se faire fouetter pour avoir été trop lents lors de la première phase d'une course au pont. Des châtiments minimes. Les dirigeants de cette armée comprenaient. La vie des hommes de pont était à deux doigts du désespoir total. Si on les y enfonçait encore davantage, ils risquaient tout simplement de commencer à s'en moquer et de se laisser tuer. Malheureusement, ça signifiait aussi que Kaladin ne pourrait pas faire grand-chose pour punir sa propre équipe, même s'il avait possédé cette autorité. Il devait trouver une autre façon de les motiver. Il traversa le dépôt de bois vers l'endroit où les charpentiers construisaient de nouveaux ponts. Après quelques recherches, Kaladin trouva ce qu'il voulait. Une planche épaisse qui attendait d'être intégrée à un nouveau pont mobile. Une poignée destinée à un homme de pont avait été fixée d'un côté. « Je peux vous emprunter ça ?» demanda Kaladin à un charpentier de passage. L'homme leva la main pour gratter sa tête couverte de sueur. « L'emprunter ?» « Je resterai ici, dans le dépôt de bois, » expliqua Kaladin, soulevant la planche qu'il posa sur son épaule. Elle était plus lourde qu'il ne s'y attendait, et il se réjouit de porter un gilet de cuir matelassé. « On en aura besoin plus tard, » répondit le charpentier. Mais il ne protesta pas suffisamment pour empêcher Kaladin de s'éloigner en emportant la planche. Il choisit une étendue de pierres régulières située juste devant les baraques. Puis il se mit à courir d'un bout à l'autre du dépôt de bois, portant la planche sur l'épaule tout en éprouvant sur sa peau la chaleur du soleil levant. Il fit des allers et retours sans discontinuer. Il s'entraîna en courant, en marchant et en trottinant. Il s'entraîna en portant la planche sur son épaule, puis en la levant bien haut, bras tendus. Il s'activa jusqu'à l'épuisement. En réalité, il se sentit à plusieurs reprises proche de s'effondrer. Mais il trouva chaque fois une réserve de force. Il continua donc, serrant les dents pour lutter contre la douleur et la fatigue, comptant ses pas pour se concentrer. L'apprenti charpentier auquel il avait parlé fit venir un surveillant, lequel se gratta la tête sous sa casquette tout en observant Kaladin. Enfin, il haussa les épaules et tous deux se retirèrent. Bientôt, il attira une petite foule. Des ouvriers du dépôt de bois, quelques soldats, ainsi qu'un grand nombre d'hommes de pont. Plusieurs membres des autres équipes le raillèrent, mais ceux du pont 4 observèrent davantage de réserve. Beaucoup l'ignorèrent. D'autres, Teft aux cheveux grisonnants, Danny au visage juvénile, ainsi que plusieurs autres, patientaient en rang, comme s'ils ne parvenaient pas à croire ce qu'ils faisaient. Ces regards fixes, aussi hostiles et stupéfaits soient-ils, faisaient partie de ce qui aidait Kaladin à continuer. Il courait également pour évacuer sa frustration, cette marmite bouillonnante de colère en lui. Contre lui-même pour avoir abandonné Tien. Contre le Tout-Puissant pour avoir créé un monde où certains dînaient dans le luxe tandis que d'autres mouraient en portant des ponts. C'était étonnamment agréable de s'épuiser d'une manière qu'il choisissait. Il se sentait comme ses premiers mois après la mort de Tien, où il s'entraînait à la lance pour oublier. Quand les cloches de midi sonnèrent, pour appeler les soldats à déjeuner, Kaladin s'arrêta enfin et posa la large planche à terre. Il fit rouler son épaule. Il courait depuis des heures. Où avait-il trouvé la force? Il se dirigea en trottinant vers l'atelier des charpentiers, la sueur dégoulinant sur les pierres, et but une longue gorgée du tonneau d'eau. En règle générale, les charpentiers chassaient les hommes de pont qui tentaient de le faire. Mais aucun ne dit mot lorsque Kaladin avala goulûment deux pleines louches d'eau de pluie métallique. Il gratifia deux apprentis d'un signe de tête avant de regagner en trottinant l'endroit où il avait laissé la planche. Rock, le grand manche-corne à la peau brun clair, était en train de la soulever, songeur. Teft aperçut Kaladin, puis hocha la tête à l'intention de Rock.
« Il a parié avec plusieurs d'entre nous une brisure chacun, que vous aviez utilisé une planche légère pour nous impressionner. »
S'ils avaient pu éprouver son épuisement, il n'aurait pas fait montre d'un tel scepticisme. Il s'obligea à reprendre la planche à Rock. Le colosse la relâcha avec une expression abasourdie et regarda Kaladin retourner en courant remettre la planche là où il l'avait trouvée. Il remercia l'apprenti d'un signe, puis regagna en trottinant le petit groupe d'hommes de pont en train de verser les brisures qu'ils avaient pariées.
« Je vous congédie pour le déjeuner, » leur dit Kaladin.
« Nous sommes de corvée de pont cet après-midi, alors soyez de retour dans une heure. Rassemblez-vous à la cantine à la dernière sonnerie avant le coucher du soleil. Notre tâche du jour consiste à nettoyer après le dîner. Le dernier arrivé doit se charger des marmites. »
Ils lui retournèrent des expressions perplexes, tandis qu'il s'éloignait du dépôt de bois, en trottinant. Deux rues plus loin, il se faufila dans une allée et s'appuya contre le mur. Puis, la respiration sifflante, il se laissa tomber à terre et s'étira. Il avait la sensation d'avoir mis à rude épreuve tous les muscles de son corps. Ses jambes le brûlaient, et lorsqu'il tenta de fermer le poing, ses doigts étaient trop faibles pour lui obéir pleinement. Il inspira et expira à profondes goulées, pris d'une quinte de toux. Un soldat de passage lui jeta un coup d'œil, mais lorsqu'il vit sa tenue d'homme de pont, il repartit sans un mot. Kaladin finit par ressentir un contact léger sur sa poitrine. Il ouvrit les yeux et trouva Syl étendu à plat ventre dans les airs, le visage tourné vers le sien. Ses pieds étaient orientés vers le mur, mais sa posture et même la façon dont pendait sa robe donnaient l'impression qu'elle se tenait debout, plutôt qu'avec le visage tourné vers le sol.
« Kaladin, » commença-t-elle, « j'ai quelque chose à te dire. »
Il referma les yeux.
« Kaladin, c'est important. »
Il éprouva une légère secousse d'énergie contre sa paupière. C'était une sensation très étrange. Il grommela, ouvrit les yeux et s'obligea à s'asseoir. Elle marcha dans les airs, comme si elle contournait une sphère invisible, jusqu'à ce qu'elle se retrouve debout dans la bonne direction.
« J'ai décidé, déclara-t-elle, que je suis ravie que tu aies tenu ta parole envers Gas, même si c'est quelqu'un de répugnant. »
Il fallut un moment à Kaladin pour comprendre de quoi elle parlait. « Laisse faire, » elle acquiesça.
« J'ai cru que tu allais rompre ta promesse, mais je suis contente que tu ne l'aies pas fait. »«
D'accord, eh bien, merci de me l'avoir dit. »
« Kaladin, » dit-elle d'un air irrité en fermant les poings à ses côtés. « C'est important. »
Je... » Il laissa sa phrase en suspens, puis reposa sa tête en arrière contre le mur. « Syl, j'arrive à peine à respirer, sans parler de réfléchir, s'il te plaît. Dis-moi simplement ce qui te tracasse. »«
Je sais ce qu'est un mensonge, » dit-elle en s'approchant pour aller s'asseoir sur son genou. Il y a quelques semaines, je ne comprenais même pas le concept de mensonge, mais à présent, je suis contente que tu n'aies pas menti. Tu ne comprends pas ?
Non.
Je suis en train de changer.
Elle frissonna. Ce devait être intentionnel, car sa silhouette tout entière se brouilla l'espace d'un instant.
Je sais des choses que je ne savais pas il y a encore quelques jours. C'est une sensation très étrange.
Eh bien, j'imagine que c'est une bonne chose. « Enfin, plus tu comprends, mieux ça vaut, non ?» Elle baissa les yeux.
« Quand je t'ai trouvé près du gouffre après la tempête majeure d'hier, chuchota-t-elle, tu allais te tuer, n'est-ce pas ?»
Kaladin ne répondit pas. « Hier, il s'était écoulé une éternité depuis. »«
Je t'ai donné une feuille, » dit-elle, « une feuille vénéneuse. » Tu aurais pu t'en servir pour te tuer ou tuer quelqu'un d'autre. C'est sans doute l'usage que tu lui destinais au départ dans les chariots. »
Elle leva les yeux pour croiser son regard et sa voix minuscule semblait terrifiée.
« Aujourd'hui, je sais ce qu'est la mort. Pourquoi est-ce que je le sais, Kaladin ?»
Il fronça les sourcils. « Tu as toujours été étrange pour une Spren, même au début. »
« Au tout début ?»
Il hésita et réfléchit. Non, les premières fois qu'elle était venue, elle se comportait comme n'importe quelle Spren des vents. Elle lui jouait des tours, faisait adhérer sa chaussure au sol, puis filait se cacher,
Même lorsqu'elle s'était obstinée à revenir vers lui lors de ses mois d'esclavage, elle se comportait la plupart du temps comme n'importe quelle autre spren. Elle se désintéressait rapidement des choses, voltigeait à droite et à gauche.
« Hier, je ne savais pas ce qu'était la mort, » dit-elle. « Aujourd'hui, si. Il y a des mois, je ne savais pas que je me comportais curieusement pour un spren, mais j'ai commencé à comprendre que si. Comment est-ce que je sais ? Comment un spren est censé se comporter ?»
Elle parut soudain rétrécir.
« Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que je suis ?»«
Je n'en sais rien. Est-ce que ça importe vraiment ?»«
Ça devrait ?»«
Moi non plus, je ne sais pas ce que je suis. Un homme de pont, un chirurgien, un soldat, un esclave. Ce ne sont que des étiquettes. À l'intérieur, je suis moi. » Un moi très différent de celui que j'étais il y a un an. Mais je ne peux pas m'en inquiéter, alors je continue simplement à avancer en espérant que mes pieds me conduisent là où je dois aller.
Tu n'es pas en colère contre moi parce que je t'ai apporté cette feuille ?
Syl, si tu ne m'avais pas interrompu, j'aurais sauté dans ce gouffre. Cette feuille était ce dont j'avais besoin. C'était ce qu'il me fallait, d'une manière ou d'une autre. Elle sourit et regarda qu'Aladine commençait à s'étirer. Lorsqu'il en eut fini, il se leva et sortit de nouveau dans la rue, ayant pratiquement récupéré de son épuisement. Elle fila dans les airs pour aller se poser sur son épaule, s'assit avec les bras en arrière et les jambes pendant à l'avant, comme une fille sur le bord d'une falaise.
« Je suis contente que tu ne sois pas en colère, mais je crois quand même que ce qui m'arrive est de ta faute. » « Avant de te rencontrer, je n'avais jamais dû réfléchir à la mort ou au mensonge. »«
C'est dans ma nature, » répondit-il sur un ton ironique. « J'amène la mort et les mensonges partout où je vais. Je suis la veille nuit toute crachée. » Elle fronça les sourcils. « C'était... » commença-t-il.
« Oui, » dit-elle. « C'était du sarcasme. »
Elle inclina la tête.
« Je sais ce qu'est le sarcasme. »
Puis elle sourit d'un air sournois.
« Je sais ce qu'est le sarcasme. »
« Père des tempêtes, » songea Aladine tout en scrutant ses petits yeux brillants de jubilation. Tout ça ne présage rien de bon. « Donc, un instant, » dit-il, « ce genre de choses ne t'était encore jamais arrivé ?»«
Je n'en sais rien. Je ne me rappelle rien qui remonte à plus d'un an, la première fois que je t'ai vu. »«
Vraiment ?»
« Ce n'est pas si curieux, » répondit Syl en haussant ses épaules translucides. « La plupart des sprens n'ont pas de mémoire à long terme. »
Elle hésita.
« Je ne sais même pas comment je sais ça. »«
Eh bien, peut-être que c'est normal. Peut-être que tu as déjà traversé ce cycle, mais que tu l'as oublié. »«
Ce n'est pas très rassurant. Je n'aime pas l'idée d'oublier. » »«
Mais la mort et le mensonge ne te perturbent pas ?»«
Si. » Mais si je devais perdre ces souvenirs ?
Elle leva les yeux en l'air et Aladine suivit son mouvement. Il aperçut deux sprennes du vent qui filaient à travers le ciel, portées par un souffle de vent, libres et insouciants. Tu as peur d'avancer, dit Aladine, mais tu es terrifiée de redevenir ce que tu étais. Elle hocha la tête. Je sais ce que tu ressens, dit-il. Viens, il faut que je mange. Et il y a des choses que je dois passer prendre après le déjeuner.